Sud Radio, l'œil de l'expert.
Alors, nous sommes avec Louis Privat, fondateur des Grands Buffets à Narbonne, des Grands Buffets qui comptent plusieurs milliers de réservations chaque jour de couverts. Parmi les clients, il y a des gens qui viennent de partout en France. Merci d'être avec nous, Louis Privat. On parlait de cette décision que vous avez prise d'augmenter de 20 à 30% vos salariés. Est-ce que ça a suscité un afflux de candidatures, cette annonce?
Alors déjà, ça a suscité beaucoup de joie auprès des collaborateurs qui ont vu leur rémunération augmenter de 35%, alors qu'ils n'avaient pas une attente particulière par rapport à leur rémunération. Ça, ouais. C'était un point extrêmement positif, parce que le premier recrutement que nous pouvons faire, c'est de conserver nos collaborateurs. Donc, sur ce point-là, ça a été un succès absolu. Sur le plan du recrutement, eh bien, il y a une pénurie de professionnels. Donc ouais. Ça, on ne changera pas la donne. Il manque des professionnels et on ne peut pas les inventer. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de convaincre de nouveaux collaborateurs qui ne s'étaient pas forcément orientés vers la restauration, qui l'avaient même plutôt écarté parce que c'est une filière qui n'a pas une bonne réputation en termes de qualité de vie. C'est une belle école professionnelle, mais ça impose des contraintes et malheureusement, ces contraintes-là n'étaient pas reconnues financièrement, même si certains, comme nous, avions déjà élaboré des dispositifs pour convaincre les collaborateurs en les logeant pendant la période d'essai s'ils venaient de l'extérieur de façon à ce qu'ils n'aient pas engagé de frais par tout un tas de biais de primes et également de jours de repos. Mais ça n'était pas suffisant. On s'est rendu compte que c'était véritablement le salaire qui était l'élément déterminant. Oui. Et on peut expliquer ça par le fait que les professionnels de la restauration ont été pendant très très longtemps obsédés par le rapport qualité-prix. Oui. Ils ont voulu proposer à leur clientèle un rapport qualité-prix le plus bas possible. Mais on est arrivé au paradoxe que lorsque les organisations professionnelles ont négocié avec les syndicats des augmentations, et ça s'est passé cet automne, et tout le monde a pris conscience, puisque ce débat est passé au niveau du grand public. Mm. On avait conscience qu'il était absolument nécessaire d'augmenter les rémunérations des collaborateurs. Ceci étant, à aucun moment, on a dit qui allait prendre en charge cette augmentation de rémunération. Parce que déjà, les organisations professionnelles annonçaient que les restaurateurs allaient avoir du mal à rembourser le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, parce que les marges des restaurateurs n'étaient pas suffisantes. Alors, comment imaginer décider d'augmentation de rémunération sans qu'on ait imaginé les ressources qu'on allait mettre en face? On imagine un investisseur, un chef d'entreprise qui veut faire des travaux, s'il n'a pas de subvention, s'il n'a pas la trésorerie ou s'il n'a pas un emprunt bancaire pour pouvoir faire son investissement, il ne le fait pas. Eh bien, on était dans ce cas de figure. On déclarait que les marges des restaurateurs n'étaient pas suffisantes pour faire face déjà au remboursement du PGE, et encore moins à des augmentations très sensibles des rémunérations des collaborateurs. Et pourtant, on voyait nos organisations professionnelles négocier des augmentations de salaire. Alors moi, j'ai pris le problème à l'envers. J'ai apparenté notre activité au commerce équitable en disant, mais finalement, le public est tout à fait disposé à accepter de payer plus cher s'il s'agit de donner une juste rémunération aux producteurs de café au Nicaragua. Ouais. On accepte également de payer plus les producteurs locaux dans le cadre de circuits courts pour qu'ils aient une rémunération normale de leur salade, des œufs, de leurs produits de ferme. Donc, pourquoi le public aurait résisté, dès l'instant où on lui expliquait correctement, à accepter une augmentation des tarifs de menus, de nos prestations, si celles-ci ont garantissé à ce public qu'elle allait directement profiter à l'augmentation du pouvoir d'achat de nos collaborateurs? Bien sûr. Eh bien, on a fait une très très bonne présentation du sujet. Moi, j'ai envoyé un mail aux 100 000 clients qui avaient réservé à cette époque-là, mais ils avaient réservé sur la base de l'ancien prix, alors que cette augmentation de 32% de pouvoir d'achat de mes collaborateurs, je la finançais par une augmentation du prix du menu de 5 euros. Eh bien, j'ai écrit à tous les clients par mail en leur expliquant qu'ils avaient réservé à un certain prix, qu'ils allaient trouver le menu 5 euros plus cher, mais que ces 5 euros allaient être intégralement
directement reversés aux salariés. Alors, vous êtes, quand je disais iconoclaste, c'est que vous êtes un des seuls, à ma connaissance, à avoir fait cela, ou vous pensez que les restaurateurs sont en train de se rendre compte qu'il va falloir bouger, et ça ne va pas être simple non plus, parce que vous évoquez le prix du menu, mais on voit l'augmentation du prix des matières premières pour connaître un certain nombre de restaurateurs en région parisienne. Ils ne savent pas comment ils vont arriver à maintenir des prix corrects avec l'augmentation du prix du poisson, de la viande. Donc ça va être difficile d'arriver à ce juste prix.
Oui, mais je crois qu'il faut vraiment scinder les deux sujets. Il y a le problème des rémunérations et après il y a le problème de l'inflation que nous allons connaître. Est-ce qu'elle sera conjoncturelle, est-ce qu'elle sera structurelle? De toute façon, c'est plutôt même une bonne indication. Vous savez, l'inflation, si un restaurateur voit ses coûts d'énergie augmenter, ses coûts de matières premières, eh bien il va augmenter. Le public comprendra qu'il y a une augmentation de prix parce que le restaurateur a subi une augmentation des produits qu'il achète ou des prestations qu'il achète. Or, ce principe-là n'a jamais été posé pour la main-d'œuvre. Oui. On a toujours considéré que s'il fallait augmenter les collaborateurs ou les payer, ben ça devait se prendre sur la marge. Non, on est exactement dans la même logique. Oui. Je crois que les restaurateurs n'ont pas à avoir peur. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. D'abord, il faut que notre filière soit tout à fait reconsidérée et que le public considère cette filière comme étant pourvoyeuse de main-d'œuvre et dans le cadre d'emplois de qualité. Ouais. L'emploi de qualité, il faut que, bien sûr, les professionnels s'attachent à faire des conditions de travail qui soient acceptables, qui soient surtout convenables. Et ça, c'est quand même très important. Mais il faut également que celui qui va vouer sa carrière professionnelle à faire plaisir aux autres, à des moments où les uns et les autres sont en vacances alors que lui est mobilisé. Et, le public, pensait-il, lorsqu'il est au restaurant le soir à 21h ou 22h, eh bien, ça pique une équipe de personnes qui lui sont dévouées et qui le servent. Eh bien, ça, il faut que derrière, il y ait cette reconnaissance-là. Et de faire comprendre au public qu'il n'y a que ce public-là qui peut subvenir à ses besoins d'augmentation, mais c'est une évidence. Pour moi, le public, s'il souhaite bénéficier de services de professionnels qui s'imposent une qualité de vie assez contraignante, eh bien, il faut qu'il accepte d'en payer le juste prix. Et on a pâti, au niveau de la profession, d'une guerre des prix, en réalité, l'obsession du rapport qualité-prix. Vous savez, quand vous allez dans certaines villes et que vous voyez des formules de midi à 14 euros, 14,50 €, c'est absurde. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir à la fois un service, des produits, et si, parce que ces prix sont ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Donc, imaginons que ces prix, compte tenu de l'augmentation de rémunération que le professionnel peut servir, soit amené à progresser de 10%. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre 14 euros et 15,50 euros si l'on sait que les professionnels derrière vont bénéficier d'une vraie rémunération qui est en adéquation avec le travail qu'ils fournissent et l'obligation? Je crois que c'est indépendant de l'inflation. On sait que c'est pour ça que j'ai voulu le faire d'abord, en premier.
Bah, en tout cas, ça a fonctionné. Hein. On reviendra vers vous dans quelques mois pour voir comment les choses se sont mises en place. Enfin là, ça fait déjà 2 mois, mais visiblement, vos clients sont toujours là, les réservations sont toujours là. Et pour vos salariés, bah, c'est entre 300 et 900 euros de plus. Et vous avez reçu plus de 500 CV depuis que vous avez annoncé ces nouvelles conditions de travail. Merci beaucoup, Louis Privat, d'avoir été avec nous. Les grands buffets à Narbonne, il paraît que c'est une expérience. Hein, Pascal Jalabert, qui est déjà en studio, qui vous connaît.
Très très bonne expérience, concept original, avec le parking sur place, et puis juste derrière, la petite route de lune qui va gruissant par les étangs, qui est magnifique et que je recommande, voilà. Et les grands buffets, bah, c'est devenu l'emblème de Narbonne, avec évidemment la cathédrale et le club de volley qui a été champion d'Europe, si je ne me trompe pas.
Voilà, nous avons de réels arguments en Narbonne.
Voilà, de très bons arguments. Bravo en tout cas, Louis Privas, et j'espère que vous serez suivi par d'autres restaurateurs. Merci d'avoir été avec nous. On va enchaîner avec nos débats tout de suite, les débats.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Voilà, les débats avec Pascal Jalabert, que vous avez entendu. Bonjour, journaliste politique, éditorialiste. Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour.
Bonjour,
Christian
Valérie.
De Villeneuve, journaliste politique. Bonjour. Vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux. On pourra en dire un mot sur la presse. On l'a déjà évoqué ici, mais c'est vrai que... Puis on en parlera avec Mickaël Darmon aussi, sur la façon dont sont traités les candidats. Et Mickaël Darmon, journaliste politique. Je rappelle votre dernier livre, Les secrets d'un règne, c'est maintenant ou jamais qu'il faut le lire, dans les coulisses d'un quinquennat de crise.
Encore quelques jours.
Encore quelques jours, paru aux éditions de l'Archipel. Ça peut expliquer, ça peut être aussi une explication de ce qui peut
après,
arriver
ça, après,
aussi.
Ça peut être de l'histoire.
Absolument. Tous les enjeux de ce débat de ce soir, on en a un petit peu parlé avec Arlette Chabot, et puis revenir sur la déclaration hier de Jean-Luc Mélenchon. Premier ministre, pourquoi pas, dit-il, élisez-moi Premier ministre. Tous ces sujets avec vous, c'est très très politique ce matin, mais tout de même des sujets avec vos coups de cœur et vos coups de gueule qui nous emmènent, qui nous font faire un pas de côté, Pascal Jalabert.
Oui, un coup de gueule ce matin à propos de la vaccination contre le Covid-19, puisque les États-Unis réunissent beaucoup de pays pour savoir comment on peut aider les pays les plus pauvres à vacciner leur population. Ça fait un an et demi que la question est posée. Malheureusement, ça n'a pas avancé. Il y a 129 pays dans lesquels moins de 20% de la population est vaccinée. Ouais. Or, tout simplement, que se passe-t-il ? C'est que ces pays deviennent des foyers à variants du virus. Lesquels variants vont revenir chez nous, inévitablement. Donc, tant qu'on n'aura pas immunisé une grande partie de la population mondiale, tant qu'on n'aura pas vacciné tout ce monde, le virus continuera de prospérer, de varier, même si aujourd'hui, on a les armes pour le combattre dans nos pays occidentaux, dans les pays riches. Ce n'est pas encore le cas des pays pauvres. La solidarité Nord-Sud, ça ne fonctionne pas.
Oui, vous êtes, je vous voyais acquiescer.
Je suis entièrement d'accord.
Pardon. On se demande ce que fait l'OMS.
Ben absolument, oui.
L'OMS avait fortement critiqué les pays occidentaux sur les nouvelles vaccinations, notamment sur la troisième dose, considérant que ce n'était pas la priorité au niveau de la gestion mondiale de l'épidémie. Mais ce que vous dites, Pascal, est très vrai. Si on ne le fait pas par humanité, faisons-le par intérêt. Mais soyons cyniques. Puisqu'on n'est pas capable d'humanité, faisons-le par intérêt, puisque c'est la seule chose que nos populations comprennent.
Absolument. Un coup de gueule aussi pour vous,
Oui. Alors là, je reviens.
Non, alors on va peut-être faire Nicolas Corato. On va faire Nicolas Corato. Je me suis trompé de coup de gueule.
C'est un coup de cœur pour les juges et un coup de gueule pour la société qui est condamnée. Il s'agit de la condamnation de Deliveroo, qui a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Paris pour travail dissimulé. Travail dissimulé, c'est un délit assez grave. C'est en gros du travail au noir, employer une expression plus populaire. La société Deliveroo, donc c'est cette société qui fait travailler, vous savez, des gens qui livrent, qui vous livrent en vélo, avec des statuts d'auto-entrepreneurs extrêmement précaires. Et les faits pour lesquels elle a été condamnée remontent entre 2015 et 2017. Et le tribunal a considéré que, en fait, ces livreurs étaient dans un lien de subordination totale avec cette plateforme, et que leur indépendance était purement factuelle, voire artificielle, mais qu'en fait, ils se comportaient, ils étaient en lien comme n'importe quel salarié, sauf qu'ils n'avaient pas, c'est intéressant par rapport au débat qu'on a actuellement, pas de droit à la retraite, pas de droit au chômage, et des droits à l'assurance maladie qui sont censés se financer eux-mêmes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette condamnation. Alors, bien sûr, la société a fait appel, la condamnation ne sera pas exécutoire, il y aura une suspension, mais moi, ce que je note, c'est deux choses. D'abord, je note qu'en 5 ans, ce sont les juges qui ont fait progresser le statut de ces, salariés ou travailleurs pauvres de l'ubérisation. Les chauffeurs Uber, Deliveroo, pas le gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas intéressé à ce sujet-là, parce que peut-être que ce modèle économique, ce modèle social est un modèle qui a sa faveur. Et à ce moment-là, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut nous expliquer pourquoi. La deuxième chose, c'est qu'à l'heure où on parle, et peut-être qu'on va parler ce soir beaucoup de la retraite à 65 ans, moi je pense à tous ces travailleurs auto-entrepreneurs, qui sont des centaines de milliers en France, et qui n'auront pas de droit à la retraite, encore moins de droit au chômage, et qui vont quand même, à un moment ou à un autre, vieillir et devoir se financer eux-mêmes.
Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas le droit, on gagne pas des points de retraite ?
Ah ben non.
Bah, vous cotisez.
Vous cotisez à des caisses où il n'y a rien du tout.
Qui n'ont rien à voir avec le régime général.
Qui n'ont rien à voir, mais il y a quand même...
C'est absolument rien. Ah, bah,
il y a d'autres professions comme ça, où il y a une grande inégalité.
Un peu comme les artisans, en pire.
Ces sociétés comme Deliveroo, comme Uber, etc., elles ne cotisent pas.
Ah oui, bien sûr.
Elles ne cotisent pas à la cotisation patronale. Et donc contribuent d'une certaine manière au déficit du régime d'assurance vieillesse.
C'est important, effectivement, d'abord. Un, c'est vrai que tous ces livreurs qui sont à la fois... des ultra-prolétarisés et en même temps auto-entrepreneurs. Donc c'est quand même la jonction, le télescopage de deux statuts qui sont totalement, parfois antagonistes. C'est une des nouveautés contemporaines que on se rassure, que tous les candidats ont bien fait attention à ne jamais aborder. Ça, c'est vraiment, pour le coup, s'il y a un consensus, c'est que jamais personne n'aborde cette question du nouveau prolétariat avec ce qui est sous-jacent, c'est-à-dire éventuellement, ce qui se dessine pour certains, c'est-à-dire la fin du salariat.
Exactement.
Et qui va totalement changer avec les évolutions technologiques, va totalement changer la manière de fonctionner des économies. Donc là, on a bien entendu, jamais aucun candidat n'en a parlé. Or, c'est exactement ce qui anime la vie des gens qui le sentent bien, et ce qui explique d'ailleurs certaines crispations plus générales à l'égard d'une forme de modernité, de pacte social, de progressisme, parce qu'ils sentent certains qu'on est en train il est en train de se mettre en place un monde nouveau, pour le coup, vraiment, mais dont on leur donne pas les clés, et dont on leur dit pas du tout ce que ça va donner, et résultat, ça crée des crispations et des logiques de bouc émissaire.
Le travail est quand même le grand absent de cette campagne, c'est bien dommage.
Bah, l'emploi, le chômage.
Le chômage, les conditions de travail, il y a des métiers qui ne trouvent pas preneurs parce que les conditions ne sont plus acceptées.
Ce que disait Monsieur Privat,
la formation...
Les hôpitaux, ce qui se passe dans les hôpitaux aussi. On n'en a pas dit.
C'est bien ça, vous prenez toutes les catégories que les Français ont mis en avant au grand débat, ça n'a pas été abordé.
Du tout. Mais on va en reparler, nous, dans un instant.
C'est un critère de non-choix.
Et Stéphane, un auditeur, nous dit que Deliveroo devrait très vite changer de porte-parole parce qu'après le procès, la réaction était digne de celui d'Orpea. Et je ne dis pas sa phrase exacte qui est du pourri d'Orpea. Je n'ai pas vu le porte-parole, mais j'imagine les arguments. On se retrouve dans un instant pour parler du débat, de ce débat de ce soir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous allons évidemment nous intéresser à ce débat de ce soir. Je vais retenir mes réflexions tout de suite. On en parle avec Mickaël Darmon, journaliste politique. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise. C'est paru aux éditions L'Archipel. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, et Christian de Villeneuve, journaliste politique. Et je rappelle que vous avez dirigé de nombreuses rédactions de journaux, Paris Match, JDD, Le Parisien surtout. Et on va, je pense, un petit peu parler de la presse, donc tous les enjeux du débat d'entre deux tours, de ce débat de ce soir. Et puis Mélenchon, Premier ministre, c'est ce qu'il souhaite. Et lisez-moi, Premier ministre, c'est ce qu'il a dit hier soir chez nos confrères de BFM TV. Alors, parlons commençons tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Mickaël, on commence avec vous. Ça a un rapport évidemment avec le débat de ce soir.
Oui, ça mettra tout le monde, les deux protagonistes dos à dos et dans le même panier. Je proteste, je pousse un coup de gueule contre le fait qu'ils aient perpétré ce rite monarchique qui consiste à choisir les journalistes. Ça encore pour refuser le plan de coupe. À l'époque, c'était un sujet.
Mais nous disait Arlette Chabot qu'il n'y en avait pas avant, que c'était une nouveauté de la dernière fois.
Il y avait interdiction de plan de coupe avant, et il y avait même un préambule quand on regarde le débat 74 avec Baudrier et Alain Duhamel. 74. Alain Duhamel fait un préambule pour dire que, bien évidemment, à la demande des candidats, nous nous abstiendrons de poser des questions. On a donc évolué.
Oui, on a évolué.
Mais quand même, le fait qu'aujourd'hui, en 2022, on ait encore deux candidats qui se réclament, soi-disant, de vouloir changer les choses, révolutionner, supposer modernité, être encore soumis et voulant encore perpétrer ce rite de la monarchie présidentielle qu'a instauré Mitterrand en 81 lors du débat. C'est lui qui avait refusé les journalistes de la télévision, considérant qu'ils avaient mené une campagne pro-Giscard. Et donc, il y a eu le système de l'ordre alphabétique qui fait que c'est Jean Boissonnat et Michel Cotta qui ont été choisis. Ouais. Mais... Alors, je trouve ça dommage et c'est pas un bon signe.
Les directeurs
pour
d'info s'en défendent, hein, disent que Léa Salamé était le premier choix,
bien évidemment.
Alors, ce que nous disait Arlette Chabot ce matin aussi, c'est que on peut comprendre aussi qu'ils aient envie d'être le mieux possible, c'est-à-dire en confiance et pas avec des gens qu'ils en soient forcément aussi.
Ils ne sont pas interrogés,
ils ne servent à rien, elle nous l'a dit Arlette, ils le disent tous, ils sont là pour chronométrer, pour dire...
Parce qu'ils ont choisi.
Non, ce n'est pas le but du débat, ce débat n'est pas fait pour être interrogé par des journalistes.
Le débat est de distribuer le questionnement. On peut aller plus loin, il n'est pas interdit de sortir de notre île monarchique et de regarder les autres démocraties. Dans d'autres pays, il y a trois débats.
Voilà, c'est le coup de gueule de Christian de Villeneuve.
Voilà, oui.
Vous parlez bien dans le micro, Christian.
Effectivement, moi je dis, c'est plus qu'un coup de gueule, c'est un regret de constater que ce débat unique intervient beaucoup trop tard, à trois jours du scrutin, alors qu'on dit en plus que les jeux sont faits et qu'il n'y a plus que 14% des indécis à convaincre. Donc l'enjeu du débat ce soir est quand même assez mince, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, je ne vois pas pourquoi, comme dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, on pourrait organiser trois débats. Un sur la politique intérieure, c'est-à-dire qui permettrait de parler de la santé, de l'éducation, la politique culturelle, politique sportive. Moi, j'en sais rien. On n'en parle absolument pas actuellement. Un deuxième débat sur la politique économique et sociale de chacun des candidats. Et puis la troisième, évidemment.
Sur l'international.
Évidemment, sur l'international.
Et le climat.
Enfin, bon, voilà. Et puis ce serait des rendez-vous. Là, ce soir, on va avoir 2h30, 3h.
On va se manger 3 heures de c'est à la limite quand même de l'indigeste.
Exactement.
Mais Arlette Chabot pareil nous disait à chaque fois après chaque grand débat, on se dit il faudrait faire plusieurs débats.
Personne n'est capable d'avoir de mettre de l'imagination au pouvoir comme on disait à l'époque, et ni de sortir des lieux communs, des conservatismes. Et à chaque fois on nous vend la nouveauté, la tradition, le fait qu'il faut tout changer, qu'il faut écouter notre époque, et en réalité, non. Ce ne sont que des conservateurs.
Les chaînes d'info ont proposé aux candidats.
Oui, BFM a proposé, par exemple.
Marine Le Pen a refusé.
Ils ont dit non.
Et Emmanuel Macron aussi, d'après nos informations, il a dit non. Il ne voulait pas de ces trois débats non plus.
Il ne voulait pas de débats.
Pascal Jalabert.
Oui, moi,
sur le fait que ça arrive tard et qu'il en aurait fallu plusieurs.
Je vais faire une comparaison avec, vous savez, ce match France-Danemark qui avait la dernière Coupe du Monde. C'était le troisième match du premier tour avec deux équipes qui n'avaient pas envie de jouer, qui n'avaient pas envie de gagner, qui n'avaient pas envie de perdre non plus. Donc ça s'est terminé par un 0-0 et une véritable purge pour tous les amateurs de foot. Et bien là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une candidate qui s'était tellement plantée la dernière fois que là, elle va essayer de ne pas se planter.
Ne peut que s'en sortir mieux.
Voilà, ne peut que s'en sortir mieux. Donc, elle va essayer de ne pas commettre l'erreur. Emmanuel Macron, lui, va essayer de ne pas paraître trop libéral, ni trop hautain, trop arrogant. Donc, du coup, tout le monde va jouer en défense et on ne va pas aller au fond des sujets.
Moi, je pense qu'on va avoir un débat très aseptisé.
Très plein.
Le Chirac Jospin de 95.
Ça va être le 95. Oui, il y a des chances que ça soit le 95.
Nicolas Corato.
Il y a une forme de... D'abord, je suis heureux d'entendre des journalistes, parce qu'on ne les a pas entendus beaucoup, avoir le courage de dénoncer un peu aussi leurs collègues qui ont des pudeurs de gazelle quand même sur l'organisation de ce débat. Et qui n'osent pas dire qu'effectivement, ce n'est pas normal que dans un pays démocratique comme la France, ce soit des candidats à l'élection présidentielle, dont un président sortant, qui choisit ses journalistes, qui les interviewent. Je pense que les pays qui nous regardent doivent nous regarder avec des yeux assez hallucinés, nous qui donnons beaucoup de leçons de démocratie au monde entier. La deuxième chose, c'est que toujours sur l'idée du pluralisme et de l'indépendance de la presse, qu'est-ce qui empêchait les chaînes de télé d'organiser des débats au premier tour avec ou sans ceux qui refusaient d'y participer ?
Moi, je remarque
une fois que le président sortant s'est déclaré, il n'y a plus de débat d'organiser avec les candidats qui se présentaient au premier tour. Je parle de débat complet, pluraliste. Après tout, le président sortant venait pas, c'est peut-être pas à lui de décider de la ligne éditoriale et de la manière dont les chaînes de télé organisent ou pas les débats. je suis BFM TV, je suis CNews, j'organise un débat, j'invite tous les candidats, viennent ceux qui veulent venir et les autres.
Sauf que vous avez le temps de parole, vous avez ce truc de l'égalité du temps de parole et du temps d'antenne qui est impossible à gérer.
On s'en débrouille, mais ça fait.
Non, on s'en débrouille pas.
Ça fait aussi sur France Télévisions, ils s'en sont débrouillés, ils ont passé un extrait du meeting. On peut toujours inventer quelque chose.
Mais vous voyez quand même, c'est compliqué de se dire que ce sont les candidats qui ont la main sur l'expression et le traitement médiatique du débat politique. Moi, je pense que c'est un sujet sur lequel on devrait se saisir. Il y a certainement des choses à réformer, notamment au niveau de l'ARCOM, dont on a vu encore les limites cette année, même s'il y a eu des évolutions plutôt bénéfiques. Mais il y a un moment, on n'a rien compris entre l'équité et l'égalité. En tout cas, expliquer ça aux citoyens,
c'est quand même lunaire, mais ça pose
la question de l'indépendance des journalistes et des médias par rapport aux candidats. Enfin,
de la même façon, c'est assez choquant de voir que pour la rediffusion des meetings, on utilise les images des candidats.
Mais bien sûr, c'est très choquant.
C'est très choquant.
Et c'est très récent, d'ailleurs.
Oui, c'est depuis 2017.
Mais en même temps, si vous voulez organiser un débat et que le candidat président n'est pas là, ils ne viennent pas. Je ne sais pas que les journalistes
les
petits, qui sont...
Les petits candidats seraient venus.
D'autres seraient venus.
Oui, mais enfin, un débat Poutou, Artaud, la salle du Pont-Aignan, je ne suis pas sûre que ça rassemble les foules sans être
présent.
Est-ce
que Le Pen ne serait pas venu? Est-ce que Mélenchon serait pas
venu?
Non,
Le Pen, elle a dit, je ne fais pas de débat si c'est pas Emmanuel Macron. Donc on peut
choisir, tous les deux.
Bien sûr, ils se sont choisis, mais donc ils nous ont imposé un traitement médiatique. C'est aux médias aussi un moment de réagir, enfin, à eux d'inventer, je suis assez d'accord, et d'imaginer des formats qui font en sorte qu'on passe à travers cette forme de censure.
Et d'une manière plus générale, on sent une difficulté, à la différence d'autres démocraties en Europe autour de nous, sans aller très loin, on sent une difficulté à assumer un bras de fer entre la presse et le pouvoir. Et c'est ça, moi, je trouve, qui me choque avec les années et qui me fait dire que, de toute façon, la Ve République est un système à bout de souffle. Parce que ça ne correspond plus du tout à notre époque. C'est daté. Voilà. Et je trouve que ce bras de fer que, sur le plan, pour le coup, corporatiste, institutionnel, la presse pourrait décider de mener avec le pouvoir sur des sujets précis à des moments précis, peut-être ça produirait des fruits et des effets, parce que personne s'y attend en réalité. Tout le monde pense qu'il suffit qu'on ait dit décider ce qui se passe, ce qui va se passer depuis les hautes instances, et tout le monde s'aligne. Vous savez, c'est quand même frappant là, et au fond c'est ce que les Français auront constaté durant ce dernier quinquennat. Le Covid l'a montré, il y a eu des circonstances. La parole sort d'un seul bureau en France. On a même eu une autorisation spéciale pour prolonger la présence de spectateurs à Roland-Garros lors d'un match, lors d'un confinement, qui est sorti de l'Élysée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et donc, tout le reste est à l'avenant.
Les sujets qui n'ont pas été évoqués, on peut en parler aussi. C'est-à-dire que la santé, on n'en a pas parlé.
La santé, l'emploi, le climat.
La gestion de l'épidémie, elle n'a pas du tout été.
Non plus.
On pensait au moment de l'épidémie, on pensait que ce serait au cœur de la campagne.
Bien sûr, et ça ne l'a pas été
rien du tout.
Bon, ça, c'est un impensé, parce que plus personne ne voulait entendre parler pour différentes raisons.
Il y a quand même plus de 100 000 personnes.
Mais quand même, absolument.
Donc ça, on n'en parle pas. Et là, il y a un incendie qui a démarré avec l'hôpital Saint-Louis, où il y a eu une réaction en urgence hier du ministère de la Santé suite à cette manifestation qu'il y a eu. Ce service de pointe, j'en parle tous les jours parce que je trouve ce qui se passe en France dans les hôpitaux publics est absolument scandaleux. Et donc ces médecins qui ont pris le pouvoir pour défendre les infirmières qui touchent un euro de prime la nuit par heure. Un euro, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, il n'y a plus d'infirmières. Donc là, il y a eu tout de suite branle-bas de combat. Le ministre, paraît-il, aurait envoyé une lettre en disant qu'il s'engageait à revaloriser. On ne sait pas de combien. Mais c'est un sujet crucial, on n'en a pas parlé.
Dans les campagnes, la fermeture des urgences des hôpitaux, c'est un vrai problème. Les week-ends, il n'y a plus d'urgence.
La désertification médicale, ça a été complètement abandonné, alors que c'était au cœur de la crise des gilets jaunes. Donc c'est encore un thème qu'on a oublié, l'école.
L'école
a également été la grande absente. Là, figurez-vous que l'an dernier, dans le bassin d'Oyonnax, ça se situe dans l'Ain, massif du Jura, département de l'Ain, on passait des petites annonces sur Facebook et Twitter pour recruter des profs remplaçants. Donc, voilà, il y a des tas de sujets comme ça qui n'ont pas été abordés.
Les crèches qui sont en train de qui ferment un jour sur deux dans certains endroits faute à Paris, faute de personnel.
Paris, Bordeaux, Toulouse, faute de personnel. On
ferme des crèches et les horaires sont aménagés parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Donc il y a un problème sur l'emploi, le salariat, ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui n'a pas été évoqué
du
tout.
Et je vais plus loin, je pense que sans l'affaire Orpea, on n'aurait pas du tout parlé des EHPAD.
Absolument.
Qui pourtant étaient aussi au cœur à crise sanitaire.
Allez, on marque une pause, on continue. 0826 300 300, vous pouvez évidemment participer, nous dire si vous allez regarder ce débat, ce que vous en attendez, quels sont les enjeux de ce débat. C'est à suivre. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec Mickaël Darmon, Pascal Jalabert, Nicolas Corato et Christian de Villeneuve. Donc parlons de ce débat de ce soir. Moi je suis un petit peu agacée par la manière dont les médias vendent, nous y compris, on y participe, mais ce match, il manque que le pop-corn quoi, quasiment, on attend, ça rejoint ce que vous disiez Christian, c'est-à-dire que c'est une sorte d'événement, et Mickaël, d'événement sacralisé, incontournable, mais qui sert à quoi en fait? Est-ce qu'on peut changer d'avis?
On dit que non, mais enfin, je crois que le dernier débat...
Oui, Marine Le Pen avait perdu.
S'il y en a un qui renverse la table... Non, mais moi, pour revenir sur le débat de ce soir, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, parce que Macron est en tête, donc il ne va prendre aucun risque. Et Marine Le Pen a intérêt à gagner une stature présidentielle, donc elle va apparaître compétente. Elle ne peut pas l'être moins qu'elle ne l'a été en 2017, donc ce sera sans doute un bon débat et on va sortir avec un match nul.
Oui.
Bon, en fait, c'est
quoi les enjeux de ce soir?
C'est un débat c'est Macron contre lui-même et Marine Le Pen contre elle-même.
Ouais. C'est pas un peu toujours le cas quand même.
Non, là en l'occurrence, vraiment, parce qu'il doit vraiment s'empêcher d'être lui-même.
Ouais.
Et elle doit vraiment réussir à ne pas être elle-même. Donc,
je sais pas si vous avez lu sa tribune ce matin, Emmanuel Macron, dans le Figaro, j'ai pas pu la lire hier soir.
Alors là, c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'exercice de fin de campagne. Alors, soit c'est ça a été donné à un stagiaire de la campagne. Soit ça a été donné à l'intelligence artificielle parce que les algorithmes ont décidé de réunir le wouzou du name dropping de la nation et ce qui fait nation. Et c'était assez intéressant.
Ouais. Il y avait steak frites dedans.
Il y a Guide Bleu, steak frites, Tour de France, il y a tous les noms, Césaire, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Et c'est complet. Et il y a quelques emprunts au fameux entretien qu'il avait donné à la revue Zadig, Macron, en mai 2021 sur ma France et ma géographie intime et ceci et cela. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça vient surtout raconter le diagnostic dans l'équipe Macron. Ils sont persuadés encore que le point faible, ça reste l'ancrage.
Ouais.
Ça reste un rapport à la nation, un rapport aux Français. Et au fond, cette tribune un peu précipitée... Ou en tout cas un exercice un peu convenu sur le site internet du Figaro, donc il n'a pas comme vocation d'être extrêmement exposé, même si ça peut circuler. Ouais. Ça vient aussi, une fois de plus, tenter de combler ce manque du rapport aux Français, parce que même dans son équipe, c'est analysé depuis longtemps comme étant le point faible.
Depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron a souffert d'un manque de capteurs sur le terrain et d'un manque d'ancrage local.
La République en marche n'était pas
sur le terrain. Lui-même n'a pas été préfet. Il y a, vous savez, certains énarques qui passent dans la préfectorale, ils ne sont plus les mêmes qu'à la sortie de l'ENA. Lui, il est quand même resté dans l'inspection des finances, dans la banque à Paris. Donc, il n'a pas été de ce monde-là et il n'avait pas les relais, les capteurs nécessaires, d'où beaucoup d'incompréhension et de difficultés. Et je rejoins Mickaël, il est dans une période où il essaie de se rapprocher des Français. Il l'a fait avec toutes ses déambulations dans le Nord, dans le Grand Est.
Son papa n'a pas beaucoup aidé
à la presse. Son papa, interviewé par Luc Chaillot dans les quotidiens du groupe Evra, n'a pas beaucoup aidé en effet. Donc voilà, c'est quelqu'un. Bah, lui est comme ça et il est entouré de personnes comme lui. Alexis Kohler, son secrétaire général, ses conseillers. Donc il y a cette difficulté. Et là où il peut être déçu, c'est de la part des députés et des, alors les sénateurs bon, des députés de la République En Marche qui n'ont pas du tout joué ce rôle-là.
Ouais.
Donc Nicolas, pour revenir au débat, ouais. Moi j'ose croire quand même que il faut encore quelques moments de rassemblement de la vie démocratique, ça en fait partie, même ouais. si c'est oui, oui. un marronnier. Mais,
oui, oui, mais c'est la façon dont c'est vendu, ont... là, c'est l'aspect médiatique.
Moi, je me pose des questions. Moi, je sais que ça a fait partie de la construction de mon éducation politique et citoyenne, les grands débats des présidentielles. Je pense aux jeunes, notamment. Je ne sais pas s'ils seront devant leur écran ce soir.
Ils ne regardent plus la télé.
D'abord, ils ne regardent plus la télé. Peut-être qu'ils auraient préféré un truc avec Baba, j'en sais rien. Mais je ne veux, veux pas non plus les réduire. À cette vision un peu péjorative des choses.
Non, il y a Brut, il y a Combini, il y a beaucoup de
mais
médias.
Mais c'est une question quand même. Est-ce qu'il y a un moment où... Parce que nous, on suit la campagne au jour le jour, au quotidien. Il y a ici des experts qui regardent ça à la ligne près, au mot près. Nos concitoyens, ils peuvent débarquer à ce moment-là du débat. C'est-à-dire finalement se dire en une heure et demie, deux heures, je fais le tour de la question, il reste deux candidats et non pas je fais mon choix, mais je me demande si ça vaut le coup ou pas d'aller me déplacer dimanche au vote. Je pense qu'en fait, le seul intérêt de ce débat, c'est peut-être sur l'abstention. C'est-à-dire, est-ce que ça va lever une forme d'indifférence qu'on voit grandir quand même de la part d'une part de nos concitoyens par rapport au second tour? Parce que ce second tour n'a rien d'intéressant.
La question, c'est est-ce que les abstentionnistes vont regarder le débat?
Voilà,
c'est ça.
L'audience sera très intéressante. Sera très intéressant de savoir. Parce que l'audience de ces débats ne cesse de diminuer d'année en année.
Oui, c'est vrai.
Et donc, là, je crois que le dernier a fait 14 millions, c'est
oui,
ça
il y avait 15 millions. Voilà.
C'était 22 en 80.
Et 25 en 74.
Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Donc on va voir donc, ce
bon,
soir.
Il y avait deux chaînes. Et une vie politique mais, très structurée.
Moi, je me souviens d'un débat qui avait été de très haut niveau. C'était en 1992 pour le référendum sur le traité de Maastricht entre François Mitterrand, alors qui avait certes joué de sa maladie, ce vieil homme à bout de souffle, et Philippe Séguin. Ça avait été d'un très bon niveau, et je pense que là, pour le coup, ça a peut-être fait pencher l'élection. Et en comparaison, en 2005, c'était Jacques Chirac qui s'était retrouvé au milieu de jeunes pour le débat sur le référendum, et qui avait dit, voilà, je ne vous comprends pas. Donc, il y a quand même des moments politiques forts lors de ces débats, et qui en disent beaucoup sur la situation du pays.
Il y a un côté amusant, c'est qu'on va chercher la petite phrase, on va chercher... voilà, c'est ça, mais c'est un spectacle.
Mais Arlette Chabot nous disait également, en ce qui concerne le débat Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, que tout de suite après, on avait dit que Ségolène Royal avait été la gagnante grâce à sa petite phrase, quand elle avait dit « je suis en colère ». Et le lendemain, les choses s'étaient un peu inversées, et c'est Nicolas Sarkozy qui était sorti gagnant de ce débat.
Je n'avais pas du tout senti qu'elle gagnait avec cette phrase. Au contraire, je trouve
tout le monde avait dit « elle a réussi
». Non, c'est une erreur.
Quand j'ai entendu dire ça... Parce que
Nicolas Sarkozy avait joué à contresens. Tout le monde attendait le Sarkozy énervé. Il a joué la personne précaire. Et il lui décoche même la phrase quand elle fait sa scène colère. Il lui dit, pour être président de la République, il faut être calme. Ce qui n'est pas piquer des verres.
De sa part.
Au contraire,
mais quand même, c'était un passing shot qui l'a cloué. Ouais. Et à partir de là, c'est lui qui l'a emporté.
Et puis le débat de la dernière fois de Marine Le Pen, bon, bien sûr, c'était
autre chose. Mais quant à ces petites phrases du passé, c'est intéressant parce que au fond, à l'époque, on les appelait les petites phrases, avant on les appelait les punchlines, donc elles ont changé de rôle, en fait. Mais elles ont toujours eu leur importance. Parce qu'on vit quand même quelque chose d'inédit ce soir, c'est le retour du match retour. Pour la première fois, on a un match retour depuis 1994-1980.
Depuis 80.
Donc déjà, ce que propose au fond Macron, c'est d'exploser aussi après, s'il est réélu, toutes les règles d'analyse politique. Quand on dit on peut pas être, on n'a jamais été réélu hors cohabitation, ce serait plus vrai. On peut pas être réélu après une série de crises, ce ne serait plus vrai. Et là, en l'occurrence, ça commence par ce débat qui revient, qu'on n'a pas connu depuis 80, et qui s'était organisé autour des mêmes mots. C'était homme du passé en 74 et homme du passif en 80. Donc on va voir qui sera le Mitterrand et le Giscard ce soir.
Alors on a une auditrice avec nous, Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour Valérie.
Bonjour.
Bonjour à toute votre équipe.
Bonjour. Alors vous allez regarder ce soir, vous savez pour qui vous allez voter?
Alors oui, alors figurez-vous que je vais regarder. Alors et là, je voulais voter Macron. parce que je ne partage pas ses idées, mais c'était parce que mon frère me fait peur, elle va passer. Et là, quand je vois le battage que font les médias contre comment ils diabolisent Marine Le Pen, et je vais vous dire, moi je sais pourquoi ils font ça, enfin on est plusieurs à penser la même chose, les médias diabolisent Marine Le Pen pour que les gens ne votent pas Marine Le Pen, donc on sait que Macron va passer, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que Macron passe avec le même écart qu'en 2017, mais ça il n'aura pas les 30 points, s'il a 10 points, c'est tout ce qu'il aura, et moi de ce fait-là, je vais aller voter nul, parce que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup d'écart, parce qu'en 5 ans, Macron, il n'a fait que augmenter les gens qui adhèrent au Front National. Et aussi, pourquoi je vais voter maintenant, si je vais voter, je voterai blanc ou je vais m'abstenir, parce que quand j'ai vu Darmanin qui s'est cet air odieux, ce mépris, ces tics de langage qui ne sait rien dire d'autre que mépris et condescendance, avec Jordan Bardella, Olivier Véran qui dit à Jordan Bardella, vous n'êtes pas à la hauteur, ces macronistes, il y en a suffisamment marre de ces gens qui sont hautains et qui prennent les Français pour des imbéciles. Voilà. Et d'autre part, je vais vous dire, pendant toute cette campagne, jamais on n'a parlé des dépenses publiques, jamais on donne suite à des affaires comme l'affaire des membres du Conseil constitutionnel qui nous doivent 20 millions d'euros d'indemnités illégales, personne n'en parle. Vous voyez, il y a tout ça. Alors moi, tout ça, ça m'écœure et je vais certainement aller voter, mais je pense pas. Donc, à moins que vraiment il y ait un flop ce soir,
Mais voter Marine Le Pen, c'est pas une hypothèse pour vous.
Faudrait vraiment qu'elle me rassure ce soir. Non, parce que je peux pas vis-à-vis de ma famille. J'ai deux, mes petits-enfants me pardonneraient pas de voter Marine Le Pen.
Merci Marie-Claire de nous avoir appelé. C'est vrai, moi c'est une question que je me suis posée en voyant quand même la différence de traitement qu'il y a entre Marine Le Pen très objectivement et Emmanuel Macron, que ça produise l'effet inverse. On voit, c'était Marcel Gauchet et Michel Onfray qui se font assassiner dans Libé. Vous allez me dire que c'est un journal d'opinion, Libération. Parce qu'ils ont osé dire que Marine Le Pen n'était pas d'extrême droite, c'est quand même ce qu'on entend, et on évoquait cette différence de traitement dans cet à vous aussi, où ce qu'on a retenu, c'est une chronique, ce que vous disiez, Michel Darmon, un peu, c'est sympathique, de Bertrand Charmeroy, où tout le monde rigole, etc. Et puis la façon dont sont traités les gens du Rassemblement National. Non ? Christian, vous qui avez dirigé des journaux. Alors, on doit marquer une pause, c'est l'heure de la pub, vous nous répondrez après.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, Christian Dunoy, je vous posais la question de la presse et de la manière dont sont traités les candidats. Michael nous disait pendant la pub qu'il y avait moins d'hystérisation que par le passé.
Non, moi je pense qu'il y a des journaux qui ont une couleur politique, donc qui prennent position, donc ça ne me gêne pas. En revanche, je dirais qu'il y a un certain nombre de journaux, de quotidiens qui sont des quotidiens populaires de qualité, dont la mission, à mon avis, est d'expliquer le programme de chacun des candidats.
Mais ce qu'ils font à l'intérieur du journal, c'est
oui,
ça
mais,
qui est.
Mais qui avec est, une tonalité ouais. qui est. Comme, oui, moi, je,
bien bon, sûr, et, avec Macron.
Et ce qui n'empêche pas de prendre position le veille ou l'avant-veille en disant nous, on assume, on vous a exposé les programmes, nous, on assume le fait qu'on vote pour tel ou tel. Mais là, on a un discours uniforme. Uniforme, qui est franchement très choquant. Et en plus, je pense que pour les quotidiens populaires de qualité, c'est contre-productif commercialement.
Parce qu'il y a une partie de leur électorat
pour en avoir dirigé quelques-uns, je savais très bien que
la moitié de l'électorat
la moitié
était
de la population
plutôt très à
droite. Votait soit FN, soit à droite. Voilà.
Il faut peut-être revenir aux fondamentaux. Ouais. Moi, je me souviens de Jacques Pilan, le père de la communication politique en France, qui disait que le système médiatique est totalitaire par substance. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il ne faut pas attendre de ce système qu'il assure de lui-même un pluralisme et un traitement d'égalité entre les différents candidats. Le système choisit son camp, et de manière un peu grégaire, parfois de manière logique ou cohérente, de manière intéressée ou pas, peu importe. Ça, il appartient à des experts de l'étudier. Mais il ne faut pas attendre du système médiatique qu'il assure, du système médiatique français, et on en a parlé tout à l'heure, qu'il assure une pleine égalité de traitement. La difficulté, c'est ce que ça crée, ce que ça nourrit. Ce qui était intéressant dans le témoignage de votre auditrice, c'est qu'on sent une colère qui n'arrive pas à s'exprimer et qui ne va pas s'exprimer par les voies démocratiques. C'est-à-dire que, notamment dimanche, cette colère, elle ne va pas pouvoir la mettre dans l'urne d'une manière ou d'une autre. Elle ne veut pas voter Marine Le Pen parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui culturellement, familialement, la bloque. Mais d'une certaine manière, le niveau de sa colère pourrait la pousser à le faire, mais elle ne va pas le faire. Elle va se retenir. Elle ne va pas voter Macron parce qu'elle avait choisi de le faire au départ, mais parce que, d'une certaine manière, la manière dont, dont s'organisent les choses la dérange. C'est intéressant, elle ne vous a pas dit « je vais voter blanc, je vais voter nul ». C'est-à-dire que, d'une certaine manière, je vais voter même contre le principe même de cette élection. Je vais saboter, entre guillemets, cette élection dans laquelle je ne me reconnais plus. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que votre auditrice... C'est pas quelqu'un qui va manifester, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui va jeter des pavés sur les sur les policiers tous les quatre samedis. C'est une citoyenne parmi d'autres qui, à mon avis, avait l'habitude d'aller voter. Et et on voit effectivement se poindre dans cette élection un rejet de l'exercice démocratique en lui-même. Alors, et ça, ça doit questionner énormément ceux qui auront la charge de ce pays lundi.
Plus que poindre, même. Je pense qu'il est confirmé largement par cette élection qui déjà a vu au premier tour près de 13 millions de Français qui ne sont pas déplacés. Et puis entre les deux tours, cette espèce d'apathie que l'on sent, de campagne quand même morne, sans enthousiasme. Ceux qui vont voter pour le président sortant disent, au fond, comme pour se dédouaner de le faire, ils formulent encore plus leur détestation. Ils disent, je l'aime pas du tout, mais je vais voter pour lui. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas et c'est intéressant de voir comment ça libère le fait de dire on reconnaît qu'on va voter Macron.
Alors
avec toutes les modulations de fréquence, sans illusion, sans envie, ça ne changera rien, je ne l'aime pas. Et ça, c'est assez effectivement.
C'est une démission. On peut presque faire le parallèle entre la baisse de la participation aux élections et l'érosion des ventes des quotidiens et des audiences des journaux télévisés. C'est-à-dire, vous avez toute une partie de la population qui est aujourd'hui dans l'abstention, politique, l'abstention de lecture de l'actualité, et qui, plus grave, peut se replier en circuit fermé sur des réseaux sociaux et se focaliser sur des centres d'intérêt, voire, plus dangereux, sur sa propre vérité. C'est sur ça que Donald Trump a beaucoup joué, a été élu.
Moi, je pense que cette élection, elle accroît le fossé et la fracture entre les élites et les gouvernants. Parce qu'on n'a pas traité des sujets de leur vie quotidienne.
Santé, le travail.
Vous rendez compte qu'on a passé tout l'automne sur immigration, islam, le discours totalement capté par Zemmour.
Exactement.
Jusqu'à ce que les Français, à partir de fin octobre, début novembre, dans des sondages, disent mais nous, les vraies préoccupations, c'est environnement, pouvoir d'achat, éducation, santé.
Oui, enfin, ce qu'a fait Marine Le Pen.
Et en plus, c'est la raison pour laquelle elle a pu remonter. Des fonds, des sondages dans lesquels Zemmour l'avait plongé, c'est parce qu'elle a parlé des sujets qui concernent vraiment les Français. Est-ce que ça suffit après pour faire un projet et une présidentialité? On verra. Ça pose encore question manifestement, mais quand même, elle a capté cela. La droite ayant mené la campagne qu'elle a menée, il n'y avait aucun discours adressé aux électeurs populaires, donc c'est capté par Marine Le Pen, finalement. Au fond, elle a fait la campagne qu'aurait fait Xavier Bertrand.
Bien sûr.
C'est très, très net, de ce point de vue-là. Donc, on voit bien qu'elle a capté ces sujets. Mais est-ce que ça suffit pour penser qu'ils ont été traités?
Non. Pas traité, c'est ce que nous disent nos auditeurs. Petite information du canard enchaîné. Macron a passé un savon à ses conseillers. Cessez de me dire qu'il faut arrêter l'arrogance. On n'est pas à un cours de yoga, a lancé le président. Vous me l'avez répété 100 fois. J'ai compris, et même avant que vous ne me le disiez. Voilà. C'est un peu arrogant comme réponse.
Il a du mal à susciter l'empathie.
De toute façon, il a compris avant tout le monde. C'est ça son sujet. C'est sa force et sa faiblesse. C'est qu'il a compris avant tout le monde.
Sauf qu'il ne peut pas changer.
Il ne changera pas de ce point de vue-là. Et il n'en a pas envie. Et deux, il ne changera pas. Et c'est parfois aussi pour cela qu'il va dire qu'il pense qu'il va gagner. Parce qu'il pense qu'il est justement dans une différence.
Voilà. À propos, moi, je suis très étonné qu'on Christian Villeneuve. Je suis très étonné par les sondages.
Oui.
Ils vont tous dans le même sens. Mais c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, on a du mal à trouver des gens qui disent « je vote positivement pour Macron ». Et moi, je vois dans mes campagnes, d'abord Le Pen dans un petit village de 700 habitants, Marine Le Pen est arrivée en tête. Après, en second, en Normandie, à 20 km de Deauville, en second arrive Mélenchon, ben ces gens-là... Donc je suis très très étonné et c'est pour ça que je suis étonné et je ne mettrai pas ma main au feu sur le résultat quand je vois quand même qu'au premier tour Mélenchon a gagné 5 points par rapport aux prévisions de sondage.
Pour prolonger ce que vous dites, c'est vrai que dans les sondages, il faut regarder les toutes petites lignes. En bas des pages qui indiquent les reports, en tout petit, il est indiqué, notamment hier par exemple, pour un des sondages, à date, 45% des reports annoncés n'ont pas encore pris leur décision. Ils peuvent encore changer d'avis.
Justement.
Je croyais que le chiffre était plus élevé que
ça. Non, ça c'est pour la décision sur les reports. Et puis après, vous avez également une discussion entre sondeurs, très professionnels, techniciennes même, sur comment évaluer et sur quels critères évaluer l'abstention. Beaucoup estiment qu'elle est en fait sous-évaluée.
Alors justement, ça va être le troisième, chiffre à regarder dimanche prochain. Il faut rappeler qu'en 2017, pour la première fois, l'abstention du second tour était supérieure à celle du premier. C'était pas beaucoup, c'était 2 points. Ouais. Mais là, on risque d'avoir un delta beaucoup plus élevé. L'abstention, elle est, ça se partage. Ouais. Je pense que ça se partage. Ouais. Enfin, je sais pas, mais à vue de nez,
Macron ait plus de, plus de participation et de voix,
Il a un peu plus à perdre parce que ça veut dire qu'il lui manquera beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, même en 2017, étaient majoritairement venus se reporter sur lui.
Alors, pour l'instant, effectivement, c'est en train de le report, les volontés de report des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sur Marine Le Pen est en train de diminuer.
Tout comme
pour les reports de Zemmour sur Le Pen, c'est en train de diminuer.
Ça diminue aussi.
On voit bien que il y a une évolution des électeurs.
Ouais, Nicolas. Et puis pour aller dans cette ligne-là, il y a aussi un effet un peu retard des sondeurs par rapport à des sondages. Ce qu'on voit, c'est les tendances, c'est-à-dire qu'on voit quand même l'abstention. Prendre du terrain ces derniers jours. C'est-à-dire que tous les jours, il y a un peu plus d'abstention qui apparaît à peu près chez tous les sondeurs. Donc, pour répondre à votre question sur l'effet Mélenchon, on avait vu la montée de Mélenchon, mais cet effet retard permettait peut-être pas au sondage de le voir au bon niveau. Mais on voyait bien qu'il y avait effet Mélenchon qui se concrétisait et qui est allé effectivement très haut. Et l'abstention pourrait suivre le même chemin. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir effectivement une surprise sur le niveau d'abstention au dimanche. La deuxième chose, quand même, par rapport aux scores qui sont annoncés pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, lors de 54, 46, etc. Enfin, il faudra qu'on fasse le bilan politique succès électoral. Mais il va falloir mettre beaucoup de guillemets autour de succès, parce que arriver à 54, 46, 52, 48, même 56, 44 contre Marine Le Pen, politiquement, ça signe, à mon sens, l'échec de son quinquennat. Et la difficulté du quinquennat qui s'ouvrira demain.
Les votes extrêmes sont majoritaires.
Moi, j'entends déjà Jean Castex nous expliquer qu'il sera plus Premier ministre, qu'il va organiser. Ouais. Je pense qu'il faut que la majorité présidentielle ait conscience que jusqu'à dimanche, le match, il est sérieux.
Absolument. On va parler justement de la suite déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, je demande aux Français de m'élire Premier ministre. À tout de suite. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Alors, on va revenir sur la déclaration de Jean-Luc Mélenchon hier qui demande aux Français de l'élire Premier ministre en élisant une majorité de députés insoumis. Mais avant, on a un auditeur en ligne avec nous, Olivier. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous allez regarder le débat ce soir, ce que vous vouliez nous dire ?
Alors, je vais regarder le débat, oui, mais j'ai déjà mon intention de vote déjà. Donc, pour résumer, donc j'ai voté un premier tour Fabien Roussel.
Ouais.
Et du coup, je voterai Marine Le Pen. Second tour sans hésitation.
C'est le grand écart là.
Ouais, non, mais en fait c'est plus possible. C'est plus possible de voter Macron, quoi.
Ouais.
C'est pendant 5 ans ça a été de l'arrogance. Enfin, moi j'ai participé aux premières manifestations des Gilets jaunes, parce qu'après il y a eu quand même des dérives. Mais du coup entre les Gilets jaunes, il y a eu de l'arrogance, il y a eu de la détresse, il n'y a pas eu d'écoute. Pendant la pandémie, ça a été diviser le peuple. Et puis il va continuer avec les retraites. Moi, je travaille dans l'hydroélectricité. On a un statut, voilà, statut des IEG, voilà, c'est, et du coup, il va recommencer, en plus, il mente quand il parle de ce statut-là. Donc, on va encore diviser le peuple sur les retraites, sur d'autres sujets. Donc,
vous avez regardé le programme de Marine Le Pen, ça vous convient, ou vous votez contre Emmanuel Macron?
Je vote contre Emmanuel Macron. Après, Marine Le Pen, sur certains points, il y a quand même des similitudes avec Mélenchon, certains points, on va dire. Mais après, c'est plutôt un vote contre Emmanuel Macron.
Et ce soir, le débat, vous le regarderez pourquoi? Pour vous faire une idée, par curiosité. C'est.
Oui, par curiosité, mais bon, j'ai déjà fait mon choix. Depuis l'annonce du premier tour. Et puis, je vois dans mon entourage, au niveau du travail, il y a beaucoup de personnes qui vont franchir le pas aussi. Moi, ça sera la première fois. Je serai pas heureux de voter Marine Le Pen, mais là, c'est plus possible.
Merci Olivier de nous avoir appelé. De toute façon, on donne 40-45% en gros d'intention de vote. Ça veut dire qu'il y a pratiquement la moitié des électeurs qui vont choisir Marine Le Pen. En tout cas, selon les sondages. Et effectivement, c'est pas. Il y a des points communs. Il y a des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui vont se reporter sur Marine Le Pen, mais pas.
C'est l'électorat populaire, ce que Perrineau avait appelé Pascal Perrineau avait appelé en 95 le gaucho-lepénisme, c'est-à-dire les bataillons d'électeurs donc de Marine Le Pen qui sont issus des électeurs communistes dans les ceintures, dans les banlieues, ce qu'on appelle les ceintures rouges, et puis dans les bassins miniers du Nord, les socialistes. J'ai rencontré à l'époque où je suivais pour France 2 l'actualité du Front National. Dans le Nord, je rencontrais beaucoup d'électeurs du FN qui me disaient « mon grand-père était socialiste, mon grand-père était mineur, et on est passé au FN d'une génération. »
Dans le Grand Est,
c'est un électorat populaire qui fait que ça a été le premier parti ouvrier de France pendant quelques années quand même, le FN.
Emmanuel Macron a intérêt à ce que la campagne ne dure pas très longtemps, parce que je trouve, comme disait Nicolas tout à l'heure, que la dynamique est du côté des populistes.
Oui, sauf que là, l'écart se creuse. Quand on regarde les sondages, je suis comme vous, je étonné que l'écart se creuse.
Il y a une différence, pour parler un peu techniquement, entre les études quantitatives, les sondages voit fleurir, et les études qualitatives, c'est-à-dire quand on fait parler les citoyens, les électeurs potentiels, on a d'abord face à soi des gens qui vont s'abstenir.
Voilà. Il faudra le premier
message qu'on reçoit, c'est quand même ça m'intéresse pas, j'y vais pas. Et puis ensuite, pour ceux que ça intéresse, on a quand même une expression assez violente contre le président sortant, qui peut se traduire d'ailleurs par des votes pour le président sortant, comme le disait Michel Darmon. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont voter Macron en disant je déteste ce président, je ne veux plus de sa politique, mais je vais voter Macron pour plein d'autres raisons qui sont exogènes.
Donc ce qui fait que la suite risque d'être très très compliqué. Là, on a vu Jean-Luc Mélenchon qui a mis un pied dans la porte hier. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire d'élire une majorité de députés insoumis et de l'Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire à se joindre à nous dans cette bataille. Pascal Jalabert.
Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, les législatives. Ce sont 577 élections. Il faut le rappeler. Et en plus, Jean-Luc Mélenchon, son électorat, il est quand même concentré sur des zones urbaines où de première couronne, et il n'est pas diffus. Or, en France, beaucoup de députés sont encore issus de territoires ruraux. Et j'ajoute que le critère de vote, c'est pas seulement un critère national, il y a aussi l'implantation du candidat, l'empathie qu'il peut susciter. Plus on est ruraux, plus on le connaît. Alors c'est vrai que le cumul des mandats un peu abaissé ce critère local, puisqu'à l'époque, les maires étaient tous élus députés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ils ne peuvent plus. Mais malgré tout, Jean-Luc Mélenchon n'a pas les troupes pour gagner 300 circonscriptions, même avec des alliances avec les Verts et le Parti Socialiste, à supposer qu'elles existent, parce que je vois mal, notamment les élus socialistes du Sud-Ouest. Or, c'est toujours dans le Sud-Ouest que la gauche a gagné législative, se râler comme ça Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas une élection à la proportionnelle et c'est pas 577 Mélenchon contre 577 Macron.
Non, je vois Claude Veil, un éditorialiste, qui dit invasion sur Twitter de wiki-constitutionnalistes qui viennent nous expliquer que la présidentielle ne compte pas, que tout se joue aux législatives. C'est marrant, quand Mélenchon était candidat à la présidentielle, c'était la mère des batailles, la 6ème République, tout ça. C'est ce qu'on entend, effectivement, que le président ne sera rien.
D'abord, la première des remarques quand on entend ça Michael hier Darman. Soir, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne s'arrête jamais.
Dans
la politique. il baisse jamais les armes, c'est évident. On avait entendu, cru comprendre qu'il passait la main, qu'il serait dans une logique de transmission.
Non.
Pas du tout, il continue. Avec le score qu'il a fait, il serait, bien évidemment, il s'est dit, pas possible que j'arrête. Et après, il fait une sorte de push linguistique. Élisez-moi Premier ministre. Ça n'existe pas, tout simplement. Voilà, alors après, il explique, pour cela, il faut élire une majorité. Mais enfin, la formule que l'on va retenir, c'est il faut l'élire Premier ministre. Il demande aux Français de l'élire Premier ministre. Comme il a échoué au bord de la qualification finale, donc il veut rejouer le match en disant écoutez, je reviens quand même, et élisez-moi cette fois-ci Premier ministre. Donc, il fait évidemment de la politique. Ça se passe bien évidemment aussi le soir où il y avait une réunion importante au Parti Socialiste qui a donc décidé quand même, malgré tout, après beaucoup de tiraillements, d'entamer des discussions avec la France Insoumise pour la législative. Et donc, en fait, il s'offre un plaisir politique. Ouais. Quand il a quitté, il y a des années de cela, le PS, il avait fait un serment, je voudrais tuer ce parti. Là, il est pratiquement arrivé. Le deuxième objectif, c'est de réunir un pôle de gauche autour de lui. Il pense qu'il peut y arriver aux législatives. Puis après... la conquête du pouvoir. Donc, de ce point de vue-là, il continue ses objectifs. Et il le fait en demandant, d'abord il fait de la politique, enjambant la présidentielle. Pour lui, elle est terminée, la présidentielle. Donc, bien évidemment, c'est... Mais au passage, on remarque que ça ne dérangerait pas d'être Premier ministre de Marine Le Pen, présidente.
Ou d'Emmanuel, Macron, qui a quand même tapé...
Ça suppose quand même, il a dû étudier ce que ça signifie, être Premier ministre. Le nombre de coups de fil, de réunions, de relations, de dossiers, d'arbitrage avec le président de la République, quand même. Ça nécessite
donc
quand même
quoi,
une forme de dialogue.
Moi je pense que c'est l'homme de la 6ème République, mais qui va jusqu'au bout du schéma de la 5ème, qui va gratter tout l'esprit et la lettre des institutions de la 5ème République. Il aurait tort de ne pas le faire. Il a une dynamique pour lui. Il veut restructurer la gauche. C'est effectivement.
C'est son pari qui s'est lancé
depuis 30 ans. Il est prêt d'y arriver. Les autres partis sont moribonds. Il y a quand même énormément de circonscriptions où il arrive en tête. Alors, effectivement, je suis d'accord. On va pas réélire Mélenchon dans 577 circonscriptions législatives. Mais c'est quand même aussi une donnée politique à prendre en jeu. Pour ne regarder qu'une ville comme Paris, qui n'est pas une ville comme les autres, bah finalement, toutes les circonscriptions de gauche à Paris, c'est Mélenchon qui arrive en tête. Donc, il y a des coups plus que symboliques à jouer, et donc il ne peut qu'améliorer son score aux législatives. De là à penser qu'il pourrait être à la tête d'une opposition qui deviendrait majoritaire et donc d'une cohabitation, au bout de la logique de la 5ème. Mais il a raison, d'une certaine manière, politiquement, d'avancer sur ces bases-là. Il aurait tort de le faire. Moi, je suis d'accord avec Michael Darmon. Moi, j'avais compris qu'il était dans une logique de transmission. Je n'avais pas anticipé la transmission passait par la continuité.
Par la continuité.
Mais après tout, c'est peut-être une dérive trotskiste qui m'avait échappé.
Et on signale que le PS a voté donc une motion appelant à se rassembler avec LFI.
En termes de débat qui ont duré très longtemps, avec des abstentions notoires, dont celle de Carole Delga. qui prétend à la conquête de ce qui reste de ce parti. Mais effectivement, ça raconte, ça raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui peuvent sauver leur circonscription, n'étaient pas là. Les députés n'étaient pas à ce bureau national. Mais ils seraient principaux concernés parce que, évidemment, Olivier Faure a réussi. Et ce qui se passe avec Olivier Faure, c'est qu'on l'enterre toujours trop vite. On considère toujours que c'est terminé. Et à chaque fois qu'on considère que c'est terminé, il est là, il revient et il se renforce. Or là, il a quand même réussi à sauver le principe des circonscriptions. Donc, ce qui est maintenant le seul objectif.
Il n'y aurait pas de candidat à LFI contre le PS.
S'il y a des. Cet accord,
c'est ce que propose le PS.
Attention, on est aussi dans des jeux à plusieurs bandes. Et ce qu'on m'a expliqué également du côté des socialistes, c'est que certains escomptent que Mélenchon n'accepte pas les propositions et passe pour étant le méchant, finalement. D'accord. Donc, on se met en situation de dire à Mélenchon, bah, vas-y, propose, on est d'accord, mais en pensant que ça ne marchera pas et que ce sera lui, finalement.
Alors, je juste vous donner un exemple.
N'oublions pas qu'on est quand même dans une sphère politique où on aime bien couper les cheveux en 25 ans.
Un exemple, le département de l'Ariège, donc, qui est un des moins peuplés de France, qui a deux députés insoumis, mais qui a 23 conseillers départementaux socialistes qui ont tous battu des insoumis aux dernières élections départementales et régionales. Donc ça va être compliqué de leur dire « bon, on est derrière les insoumis ». Et ce type de situation va se multiplier.
Merci à tous les quatre. Débat ce soir, débrief demain matin, évidemment avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.